Claudie Agneret, bonjour, bonjour.
Bonjour.
Soyez la bienvenue au petit déjeuner de Devenir pour Agir. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un honneur de vous recevoir. C'est un véritable honneur, d'autant plus que pour reprendre les mots de votre ami philosophe Michel Serres, en 2002, il avait dit, lorsqu'il vous recevait, qu'il donnait une conférence, il disait qu'il était heureux de recevoir la seule et unique femme française descendue du ciel. En tout cas, je suis très heureux d'être avec vous. Alors, vous êtes une grande femme de notre siècle, 20e, 21e siècle. Et je voudrais reprendre une citation d'un de vos amis aussi, Edgar Morin. Grand philosophe Edgar Morin, je le cite. On lui posait la question de savoir qui il était. Et sa réponse a été la suivante. « Comme je ne suis plus maître de mon temps, le temps est désormais maître, et désormais mon maître. » Alors, Claudie Agneret, êtes-vous maître de l'espace? Non pas de votre temps, mais de l'espace. Qui êtes-vous? Pouvez-vous vous présenter en quelques mots?
Alors, j'ai ce privilège formidable d'avoir eu la chance d'aller dans une orbite, dans la station spatiale. Je suis médecin de formation, médecin rhumatologue, et j'ai été sélectionné par le CNES, l'Agence française de l'espace, et j'ai eu l'occasion, après de longs entraînements, de faire deux missions spatiales, à bord de la station Mir, d'abord en 1996, puis de la station spatiale internationale en 2001. J'ai donc eu ce privilège parmi les 570 personnes dans le monde qui sont allées en orbite de pouvoir vivre en microgravité, en dehors du champ de la pesanteur terrestre, pratiquement, et de pouvoir regarder par le hublot cette planète Terre que nous survolons à 28 000 km/h, à 400 km en orbite. Et je dirais que cette expérience est une expérience transformative, bien évidemment. Alors, elle ne m'a pas permis de maîtriser ni le temps ni l'espace, mais je pense qu'elle a changé ma vision. Un peu dans les trois dimensions, je dirais. C'est ce qu'on découvre quand on arrive dans une station spatiale. On utilise la troisième dimension, à laquelle on n'est pas habitué quand on est un terrien avec les pieds sur la surface de la Terre. Alors, je dis transformer en trois dimensions, parce que quand on regarde la planète depuis l'orbite, on voit sa beauté, on voit sa vulnérabilité, sa fragilité, parce qu'elle est très isolée dans le cosmos noir, mais on voit cette notion de globalité de la planète, porteuse de vie, sans frontières apparentes, soumise aux forces naturelles, de catastrophes potentielles, de cyclones, d'éruptions volcaniques. Donc, cette globalité qui nous fait ressentir notre humanité. Nous sommes un être humain et non pas un astronaute français de l'Agence spatiale européenne ou un cosmonaute russe. On se ressent vraiment dans cette humanité par rapport à la planète. Je pense que ça nous donne cette dimension de profondeur, du sens de notre existence, de notre action individuelle tout autant que de notre action collective en tant que partie prenante d'une humanité par rapport à la planète. Et puis la troisième dimension, en dehors de ce spectre large de la globalité, de la profondeur de la réflexion, c'est de se projeter dans le temps. Et on a cette dimension temporelle, là aussi, de se dire, voilà, aujourd'hui où nous en sommes, mais comment voyageons-nous avec cette planète dans le système solaire? Et on se rend un peu compte de cette phrase de Tsiolkovsky qui disait que nous sommes sur ce berceau de la Terre, mais à un moment donné l'humanité ira explorer et sortira de ce berceau, ou de Saint-Exupéry qui dans Terre des Hommes dit que nous sommes solidaires et tous équipages d'un même vaisseau.
C'est ça, exactement. Vous venez dans les quelques mots de présentation, vous venez de dire, vous avez toute l'interview finalement a été résumée parce que je vais approfondir tous les points que vous venez de nous donner. Vous avez exercé aussi plusieurs autres fonctions, vous avez été deux fois ministre sous Jean-Pierre Raffarin. Ah,
j'ai eu plusieurs vies, je suis très privilégiée pour ça. Donc cette vie de médecin, rhumatologue, une vie de chercheur parce que ayant amené des expériences scientifiques à bord des stations spatiales, je voulais vraiment avoir cette compétence et cette légitimité du chercheur qui a développé sa carrière. cette carrière d'astronaute pendant 15 ans, un moment absolument formidable d'aventure humaine que j'ai eu la chance de vivre, ce qui m'a donné peut-être ensuite la possibilité d'avoir des opportunités qui m'étaient offertes dans la vie, que j'ai su saisir, je le reconnais, endosser des responsabilités gouvernementales au sein de l'équipe sous la présidence de Jacques Chirac avec le Premier ministre Jean-Pierre Raffarin. J'ai donc été en charge de la recherche et des nouvelles technologies, ça s'appelait comme ça, entre 2002 et 2004, et puis en charge des affaires européennes entre 2004 et 2005. Ça, c'était effectivement un engagement de conviction par rapport à ce qui sont un peu les deux étoiles de ma vie. Voilà, je suis née en 57 et l'année 57 est une année importante pour moi parce que c'était mars 57, signature du traité de Rome, le début de l'Europe, tel qu'on voilà, on peut en avoir envie aujourd'hui. Et puis 57, octobre 57, c'est le Sputnik, le premier satellite autour de la Terre. Donc l'espace, les sciences et les technologies et l'Europe étaient voilà, sur ma trajectoire. Et c'est avec cette conviction et cet engagement que j'ai accepté ces responsabilités ministérielles. Et puis ensuite, j'ai eu la chance de participer à cette belle aventure de réfléchir à qu'est-ce que doivent être les centres de sciences et les musées de sciences au XXIe siècle. Comment aborder ces problématiques de la science, de la technologie, du digital, comment on peut se sentir en confiance, posséder des clés de compréhension par rapport à ces outils absolument extraordinaires qui nous permettent de nous projeter dans l'avenir. Et j'étais la présidente d'Universcience, qui regroupe le Palais de la Découverte et la Cité des Sciences et de l'Industrie. Et puis, bien évidemment, de longues années passées au sein de l'Agence spatiale européenne, sur la politique spatiale européenne, avec ces dernières années, la contribution à ce qui sera plus mon aventure personnelle, puisque je suis un astronaute qui n'est plus actif aujourd'hui, mais il y a une jeune génération d'astronautes actifs, qui est d'imaginer, d'envisager le retour sur la surface de la Lune, et non plus simplement en orbite basse. La Lune est à 385 000 km hein, de la Terre, et l'idée dans la décennie qui vient, c'est de redonner, de s'y installer, d'apprendre à y vivre, à y travailler, pour donner à l'homme la possibilité d'explorer et de continuer son avancée dans le cosmos et dans sa, je l'espère, son humanité.
Dans son humanité. Nos deux professions, d'astronaute et de philosophe, on a un point commun, c'est que l'espace est une quête philosophique. Tout homme, tout humain a besoin d'espace, qui plus est pendant ce temps de confinement que nous vivons. Ma question est la suivante, pourquoi l'homme, à votre avis, a-t-il cette envie d'espace? Vous qui êtes astronaute, pourquoi êtes-vous parti dans l'espace? Pourquoi êtes-vous tombé amoureuse de l'espace? Est-ce que c'est une quête aussi humanitaire, identitaire, pour vous trouver? On se dit, bah, on ne se connaît pas sur Terre, est-ce qu'on va se connaître dans l'espace? Quelle est votre réaction sur cette quête infinie, peut-être, philosophique?
Oui, vous avez raison d'évoquer cet aspect de la quête de se connaître soi-même, de connaître les autres. Je dis souvent, un vol spatial, c'est aussi un vol en équipage, avec une équipe au sol et une équipe à bord, multiculturelle, multigenre, multiprofession. Donc on apprend au travers de l'autre comment on peut être soi-même meilleur. Et ce qui est formidable dans cette aventure humaine, c'est que le succès est l'objectif, c'est-à-dire réussir ensemble sa vie et la mission. Donc ça, c'est quelque chose d'important. On n'a pas toujours la possibilité de le vivre seul dans les conditions habituelles. Alors, simplement pour resituer l'espace, je pense que quand on parle de conquête spatiale, il faut avoir les deux enjeux face à soi. L'espace est aujourd'hui quelque chose qui est complètement intégré dans notre vie terrestre. L'espace est au service de nos problématiques au sol, que ce soit par les satellites d'observation de traceurs, de positionnement, de télécommunication, rien ne serait possible au sol sans aujourd'hui les données et les infrastructures qui sont dans l'espace. Donc cet espace au service de notre société, en tant que tel, il a besoin qu'on continue à l'explorer, à travailler, à le faire avancer. Ça pourrait être, bien sûr, uniquement de façon automatique, avec des satellites, et parfois on nous pose la question, mais à quoi sert l'homme dans la conquête de l'espace? On a on entend parler de Voyageur 2 qui est sorti de notre système solaire et qui...
Quelle est la réponse alors à cette question, à quoi sert l'homme?
Alors, l'homme est, pour revenir à mon aventure personnelle, je dirais que je suis une génération Apollo. Étant né en 57, en 1969, premier pas ouais. sur la Lune, j'avais 12 ans. Voilà une petite fille qui découvre un moment absolument fascinant et magique, ce grand pas pour l'humanité, comme l'a dit Armstrong en descendant sur la surface de la Lune. Et c'était un moment fascinant, partagé par l'humanité. Donc il y a vraiment quelque chose de profond. Tout le monde se souvient où il était à ce moment-là. Et pour un enfant, quelque chose de très inspirant, quelque chose d'impossible, d'inaccessible, était ce jour-là devenu possible. Et je pense que c'est un déclenchement important dans une jeune vie, de se dire qu'il y a des choses qu'on ne voit pas encore, invisibles, impossibles, inaccessibles, mais que si on se met sur le chemin, peut-être la porte va s'ouvrir et on va pouvoir aller jusqu'au bout de ce qui était pour moi un rêve. Alors j'ai la chance d'incarner un peu le rêve de beaucoup. Oui, vous avez évoqué Michel Serres, Edgar Morin, ils m'ont souvent dit que effectivement chacun avait en soi un petit peu ce rêve de dépasser des frontières, d'explorer l'inconnu, de se projeter dans l'improbable, l'incertain.
Tout à fait, oui.
Pas toujours avec confiance, mais en tout cas en essayant d'analyser, maîtriser et avec un appétit, un désir, une curiosité d'aller devant. Je crois que ça c'est important, c'est ce que j'essaie de transmettre aux jeunes, à l'école, à l'université, de se dire, levez le regard au-delà de votre horizon du quotidien avec ses problèmes et ses doutes et dites-vous que vous êtes partie prenante de ce qu'on peut continuer à explorer. Et je pense que l'humanité est dans cette trajectoire de continuer à progresser. Il y a beaucoup de problématiques aujourd'hui sur dire qu'est-ce que le progrès versus l'innovation. Vous avez probablement rencontré Étienne Klein entendre parler de ces choses. Et je crois que c'est vrai de se dire qu'on peut avoir une envie d'avenir pour faire avancer et pas simplement réparer les erreurs du passé. C'est quelque chose d'important. Et pour moi, l'espace, cette conquête, le cosmos, l'aventure, c'est une aventure humaine de progrès.
De progrès, d'accord. Mais alors,
De progrès si on est conscient et responsable des erreurs du passé. J'évoque ce sujet-là, qui n'était tout à fait dans la philosophie, mais qui est un sujet qui nous préoccupe aujourd'hui dans le monde du spatial, de se dire, gardons cet environnement de la Terre suffisamment clair, ouvert, pour continuer ce progrès. Et ce qui redonne du sens à notre humanité par rapport à la planète et au cosmos. Notre humanité, ce n'est pas simplement cette surface terrestre et ces problèmes du quotidien. Notre humanité, c'est bien au-delà cette ouverture, mais on doit l'envisager avec...
C'est un tout, l'humanité, pour vous ? C'est un ensemble ?
C'est un ensemble, je ne sais pas.
Espace, terre, temps, toutes ces notions...
J'ai vécu dans mon monde de science et de recherche dans une ouverture, une coopération scientifique, comme tous les chercheurs la vivent, avec l'ouverture, les données partagées, pour avoir plus de savoir, pour l'acquérir ou confronter des hypothèses et essayer d'avancer. J'ai vécu la Station Spatiale Internationale comme un magnifique outil diplomatique, où travailler ensemble la Russie, les États-Unis, le Japon, le Canada et l'Europe, dans des situations qui, parfois politiquement, n'étaient pas faciles, mais continuer à avancer tous ensemble. Donc un outil diplomatique, la coopération scientifique, et puis des aventures humaines à vivre ensemble. C'est là où je parle d'humanité. J'ai non seulement vécu une magnifique aventure scientifique et technique en participant à cette carrière d'astronaute, mais une aventure humaine. Je suis arrivée en Russie en 92, au moment de la transition entre l'Union soviétique et la Russie, dans un monde assez militaire, dans un monde assez masculin, dans un monde... je dirais, assez fermé et contrôlé. Et j'ai vécu entre 92 et 2001, 10 années passées en Russie, avec une ouverture, une transformation des liens. Et donc voilà, la Station Spatiale Internationale est pour moi un des grands projets du XXe siècle et du début du XXIe siècle qui nous a permis d'apprendre à travailler ensemble. Et je pense qu'on a besoin de quelques aventures de ce type-là pour dépasser un petit peu les frontières et les difficultés qu'on peut vivre dans la vie quotidienne.
Les difficultés, les fragilités. Comment vous qui avez, je dirais donc, contemplé la Terre de l'extérieur, l'astronomie fait poser beaucoup de questions, d'où venons-nous, où allons-nous, toutes ces questions philosophiques et métaphysiques. Quel regard avez-vous sur l'homme terrestre, vous qui l'avez contemplé de l'extérieur? Est-ce que la fragilité, la force de l'univers vous a fait comprendre la fragilité de la Terre?
Oui, complètement. J'utilise souvent ce mot de vulnérabilité. Mmh. Et effectivement, c'est quelque chose qui m'a beaucoup frappé par rapport à l'isolement de la planète. La beauté de la planète, porteuse de vie, on le voit quand on la parcourt la nuit avec ses lumières sur les côtes, les bords des continents, on voit cette vie. On voit aussi les forces naturelles, je le disais, qui sont responsables de catastrophes. Et on voit bien que ces forces-là sont considérables et qu'il faut une humanité responsable pour arriver à maintenir, préserver cette planète porteuse. Donc ça, c'est important. On sait également aujourd'hui que la science ne nous a pas donné de signe de planète secours ou de vie potentielle à d'autres endroits. On explore les autres systèmes solaires et les planètes extraterrestres, extrasolaires. Mais on n'en est pas là du tout aujourd'hui. Donc effectivement, aujourd'hui, on est concentré avec cette planète Terre et notre humanité au service de la planète. Et très souvent, j'entends cette phrase de un petit peu frustration par rapport à la dégradation de notre planète et son environnement, mais quelle planète allons-nous laisser à nos enfants? C'est souvent la question qui revient. Et c'est vrai que je la renverse, cette question, en disant, mais quels enfants allons-nous laisser à cette planète? Et c'est pour ça que ces sujets d'éducation, de transmission, d'accompagnement de la jeunesse, et tout individu vers quelque chose qui soit du mieux pour demain, un futur qu'on puisse désirer, qu'on puisse souhaiter, et non pas nostalgique d'un passé qu'on aurait un peu gâché. Donc ces sujets d'éducation sont vraiment venus au cœur de ma motivation depuis ce voyage dans l'espace. Avant, j'étais médecin, donc effectivement, essayer d'accompagner la douleur et de trouver des solutions à des maladies, c'était ce pourquoi je m'étais engagée dans la première partie de ma vie. Et aujourd'hui, je l'accompagne sur comment tendre la main, faire en sorte que toutes ces intelligences, tous ces talents puissent développer tout leur potentiel. Parce qu'effectivement, notre planète en a vraiment besoin de cette intelligence collective, cette intelligence responsable, réfléchissant. Vous êtes très intéressé au sujet de l'éthique et de la morale de notre action. C'est quelque chose qui me paraît tout à fait indispensable. Alors ça s'accompagne de l'esprit critique, de la possibilité de s'émanciper des contraintes et de pouvoir acquérir par l'éducation une forme de pouvoir d'agir, soit individuellement avec responsabilité, soit collectivement avec responsabilité, mais en pensant le sens de nos actions. Et ça, je pense que c'est cette aventure spatiale qui m'a transformée dans ce regard.
Dans ce regard. Vous venez de répondre d'une certaine manière à ma prochaine question, mais dans l'une de vos interviews, vous citiez depuis l'espace, on prend conscience de la finitude des ressources de la Terre. Vous avez donc contemplé la Terre, vous avez découvert l'espace, l'univers. Quel est votre regard sur l'écologie? C'est-à-dire que vous parliez de la beauté de la Terre. Nous sommes dans cette ère de l'écologie, on nous dit qu'il faut respecter la planète, etc. Pourquoi? Et quel est votre regard extérieur là-dessus, sur cette écologie? Pourquoi respecter la planète? Pourquoi on nous demande de respecter la planète, de l'aimer?
Alors, de l'aimer, de la respecter et puis de l'admirer. Je vous ai parlé de la fragilité de la planète, mais je vous ai parlé de sa beauté. C'est absolument extraordinaire. Si vous voyez les photos que nous transmettent aujourd'hui les astronautes depuis l'espace, vous voyez, c'est, ses couleurs, ses variations de lumière. Et, c'est vraiment un endroit unique dans notre système solaire et il faut le reconnaître. Vous avez raison d'insister sur la finitude. La finitude, c'est parce qu'on voit cette planète isolée dans le cosmos noir et mystérieux et plutôt hostile. On voit cette très très fine couche d'atmosphère qui fait que la vie est possible sur Terre et que par ailleurs, on ne sait pas s'il y a des formes de vie d'autres natures dans d'autres endroits. Donc, tout ça, c'est notre berceau, notre terre, notre mère, comme dirait Edgar Morin, notre planète mère. Et oui, bien évidemment, la responsabilité, elle est dans nos mains de la préserver. J'étends même cette préservation à la banlieue de la Terre. Je l'étends à la notion de débris spatiaux, de comment on se comporte dans une orbite basse. Et même quand on envisage d'aller s'installer sur la surface de la Lune, voilà, la Lune, c'est une partie de notre Terre, c'est notre satellite, ça fait partie de notre banlieue terrestre, donc la responsabilité qu'on doit avoir aussi pour préserver cet environnement. Et je pense que l'humanité, elle se considère dans la transmission, les générations à venir. Génération à venir, ça veut dire qu'il faut penser un développement durable, comme on dit beaucoup aujourd'hui. Dans cette soutenabilité, cette durabilité, si on la confronte à la finitude des ressources, à l'isolement, aux dangers potentiels, soit naturels, soit de nature géopolitique et conflictuelle, comme on peut les sentir venir, bien évidemment, ça nous amène à réfléchir avec responsabilité et éthique à ce comportement.
Parce que dans le mot responsabilité, il y a quand même le mot réponse. Alors, quelle est cette réponse que nous, humains, êtres humains, devons-nous apporter à la Terre ? Que vous dites une responsabilité, mais quelle est cette réponse ?
Je suis plutôt quelqu'un qui pose des questions plutôt que quelqu'un qui apporte des réponses. Et je pense que c'est bien qu'on continue à se poser des questions. Alors, il y a des parties de réponses, et moi, je suis quelqu'un qui est convaincu et ambassadeur de la science et de la technologie. Comme capacité à apporter des réponses à certains des enjeux. Quand on évoque le réchauffement climatique, on sait bien à quel point les outils d'aujourd'hui nous permettent d'analyser la situation, d'anticiper, de prévenir certains risques, éventuellement de réparer, si ce n'est pas possible, de s'adapter, en tout cas aux variations. Et ça, se dire que science et technologie, c'est quelque chose qui contribue à notre progrès, pour peu que là aussi on sache l'utiliser avec respect, responsabilité et réflexion éthique, bien évidemment. Je pense que notre intelligence humaine, qu'elle soit individuelle, qu'elle soit collective, va de plus en plus être assistée par des autres formes d'intelligence, donc bien évidemment l'intelligence artificielle dont on parle beaucoup. Mais que là aussi il faut trouver cet équilibre et cette façon de garder le contrôle et de garder le libre arbitre de nos décisions. Voilà, j'ai pas de réponse complète, mais je pense que c'est en se posant des questions, en se remettant en question. Qu'on est capable de mieux avancer.
D'avancer, oui. En 2010, Vous avez écrit un livre aux éditions Le Pommier, comment réconcilier, un plaidoyer pour réconcilier les sciences et la culture. Jean d'Ormesson définissait la culture de cette manière. La culture, c'est l'espace et le temps rendu sensible au cœur. Deux questions. Quelle est votre définition de la culture ? Et deuxième question, votre souhait a-t-il été exaucé ? Cette réconciliation, en janvier 2021, votre souhait est-il... Vous a-t-on écouté ?
Ce plaidoyer, c'était un ouvrage collectif, parce que je pense que dans la communauté scientifique, très large. Et quand je dis scientifique, c'est à la fois ce qu'on appelle les sciences humaines et sociales, les sciences molles, pour ça, par rapport aux sciences dures, que peuvent être la physique ou les mathématiques, qui ont encore, et toujours aujourd'hui, peut-être tendance à fonctionner en, en silo d'approfondissement, de connaissances, alors qu'on est aujourd'hui, je pense qu'il faut avoir ce regard global que j'évoquais tout à l'heure, de l'interaction des mécanismes, l'interdisciplinarité bien évidemment avec un regard à plusieurs facettes pour aller considérer une question et tenter d'y apporter une réponse pour revenir à la question précédente. Et je pense que au sein des disciplines scientifiques, il faut avoir aujourd'hui cette interaction, cette interdisciplinarité. Ce qui veut dire qu'il faut faire converger des regards différents, mais que ça ne sert à rien si ça reste au sein d'une communauté scientifique, sans qu'on trouve la façon d'exprimer cela avec un langage partagé. Sinon, vous restez avec votre communauté de savoir que vous faites progresser, mais isolé de ceux qui pourraient le mettre en action, qui pourraient l'utiliser pour leur propre réflexion. Donc cette notion, et c'est celle de l'éducation, de la transmission, du partage, qui est de trouver ce langage commun qui puisse nous permettre de faire nôtre cette capacité d'agir. Et ce langage commun, c'est la culture pour moi. C'est quelque chose qui doit faire partie de notre culture. Et quand on parle d'enseignement des sciences à l'école, oui, il faut sans doute le transformer. Il faut être au-delà du savoir dans le apprendre à apprendre, apprendre à raisonner, apprendre à penser pour avancer. Mais tout ça, ça sera facilité si nous possédons tous une culture dont la culture scientifique et technique fait partie de cette culture générale. Et j'avoue qu'aujourd'hui, je lis encore beaucoup d'ouvrages scientifiques, bien évidemment, mais j'y inclus beaucoup d'ouvrages de philosophie, de réflexion ou de littérature. Je suis partie de la science-fiction après mes envies d'enfant, mon rêve de 1969, que ce soit par Jules Verne ou Asimov. Mais je reviens aujourd'hui à de la science-fiction qui, je l'espère, est plus utopique que dystopique, alors qu'au XXIe siècle, je trouve qu'on est quand même beaucoup sur des sujets sombres dans le domaine de la science-fiction. Et voilà, la réflexion philosophique, les contraintes sociologiques, socio-économiques, et cet imaginaire à continuer à développer. Pour moi, tout ça, c'est cette culture qui nous permet d'être plus confiants de l'avenir.
Oui. C'est ça. Tout à l'heure, vous parliez d'un. Vous avez évoqué plusieurs fois la collectivité, cet esprit de famille finalement quand vous montez dans l'espace. Nous sommes dans une société, souvent on le dit, assez individualiste. Comment concilier ou comment permettre de quitter cet individualisme pour, à votre exemple, dans cette mission spatiale que vous avez menée, avoir un esprit beaucoup plus collectif ? À votre avis, est-ce que la collectivité nous permet d'avancer beaucoup plus vite ou beaucoup plus fort aussi, d'être beaucoup plus... Quel est votre sentiment et votre regard sur cette question ?
Ah, c'est une question intéressante. Je pense qu'il ne faut pas opposer ces deux façons de développement et que le développement personnel passe aussi par l'altérité. Et l'altérité, c'est soit un individu, soit c'est du collectif. Alors, mon expérience personnelle fait que j'ai vécu de grandes aventures humaines. Ces aventures inspirantes, ces projets collectifs. Bon, alors là, bien évidemment, on est porteurs, je le disais tout à l'heure, l'objectif, c'est le succès. Donc, voilà, on grandit tous ensemble quand on se met sur un chemin d'aventure et un objectif de succès. Mais il est très important de se sentir à l'aise avec soi-même. On évoquait tout à l'heure ces carrières scientifiques, techniques, se dire que, aujourd'hui on l'a vu dans la crise du Covid et on le voit toujours, on est en défiance plutôt qu'en confiance et en espérance par rapport à la science et la technique. La notion de la confiance, c'est quelque chose qui pour moi est important dans ce développement personnel tout autant que dans l'aventure collective qu'on peut vivre. On peut vivre quelque chose de collectif et à succès que si on se fait confiance.
Oui.
Et on ne peut se développer soi-même que si on se fait confiance, la confiance personnelle, Et les jeunes filles, par exemple, n'ont pas toujours confiance en elles pour s'orienter vers ces métiers scientifiques, techniques, ce que j'essaie d'inverser, de les accompagner, de tendre la main pour ouvrir des possibles. Et cette notion de confiance personnelle et de confiance qu'on fait à l'autre, c'est ça qui me paraît important pour se développer complètement dans la plénitude de son humanité.
Vous venez d'évoquer, et c'était la question que je voulais vous poser, vous venez d'évoquer les filles, les jeunes filles qui, dans ce monde finalement scientifique, ne sont pas assez représentées, me semble-t-il. Quelle est la place de la femme dans ce monde spatial? Que voudriez-vous qu'il y ait plus de femmes? Vous êtes la seule et unique femme française à être montée dans l'espace.
Je ne fais pas un cas de la parité complète. Par contre, je suis une convaincue, une militante de la diversité. J'ai beaucoup employé le mot d'altérité, de confiance à l'autre. Je n'ai pas évoqué le mot de solidarité, mais quand on se lance dans des camps d'aventure, bien évidemment, il faut le faire en solidarité vers un objectif commun et accompagner l'autre sur un chemin. Donc effectivement, pour moi, la diversité est une des clés de l'enrichissement et du progrès. Et la diversité, pour moi, c'est très très large. J'ai eu la chance de vivre cette diversité pas suffisamment diverse de la présence des femmes dans un milieu aéronautique et spatial quand même très masculin. C'est en train d'évoluer, mais pas suffisamment. C'est le cas dans le monde du numérique, où il y a aussi 10 à 15% de jeunes femmes, alors qu'on a les outils d'écriture du monde de demain et qu'il faut l'écrire à quatre mains. Hein. Donc cette diversité de genre, la diversité générationnelle, bien évidemment. Je suis une astronaute du XXe siècle, mais je travaille pour les astronautes du XXIe siècle. Et je crois que cette jeunesse, par rapport à l'expérience des silver, des seniors, est quelque chose qu'il faut faire travailler ensemble. La diversité des cultures, bien évidemment. Vous parlez beaucoup d'éthique, j'en parle aussi beaucoup. Nous avons notre éthique occidentale, qui n'est peut-être pas la même que d'autres éthiques. Il faut partager ces réflexions-là aussi. Et puis les diversités dans les origines sociales, bien évidemment, et dans le monde professionnel. J'ai évoqué l'interdisciplinarité tout à l'heure et de mettre la science en culture ou de redonner de la culture à la science. C'est là aussi des professions qui vont se côtoyer, qui vont s'apporter l'une l'autre. Donc la diversité, c'est une des clés de notre action bénéfique pour demain.
Et c'est un pilier aussi pour la diplomatie. Tout à l'heure, vous parliez de votre profession comme, non pas un tremplin, mais comme des liens qui se créent entre tous les pays. Est-il encore possible, et n'est-ce pas trop difficile au niveau diplomatique, d'avoir ces discussions et à la fois d'avoir ces liens qui essaient de se créer? Parce que vous parlez de la diversité, mais souvent et parfois, la diversité, c'est quand même un obstacle. On ne peut pas s'ouvrir à l'autre, on essaie de garder nos connaissances, etc.
Oui, bien évidemment, il faut être lucide et pragmatique et vivre avec les contraintes du monde d'aujourd'hui. Je suis là aussi quand même quelqu'un qui porte le message du multilatéralisme, hein, et pas du multibilatéralisme vers lequel on est en train de s'orienter aujourd'hui. Et cette diversité, bien évidemment, je l'élargis au monde de la diplomatie pour être dans quelque chose qui est du multilatéral constructif. Alors, c'est pas facile, on sait à quel point aujourd'hui ces alliances pour le multilatéralisme sont quand même mises en tension et difficiles à réaliser. Je pense qu'il faut des aventures qui transcendent des objectifs de court terme. Et ça, c'est peut-être un petit peu la difficulté aujourd'hui, d'arriver à se projeter dans du long terme. C'est pour ça que j'ai évoqué l'imaginaire, la
Oui,
science-fiction, les aventures à construire. J'ai eu la chance de vivre une autre aventure assez extraordinaire sur le plan scientifique. Quand j'étais ministre de la Recherche, c'était la mise en place de cette grande aventure de la fusion nucléaire, avec le démonstrateur de fusion nucléaire qui est installé à Cadarache dans les Bouches-du-Rhône, qui est là aussi une aventure mondiale, internationale, pour essayer de se donner les moyens de recréer cette énergie du cœur des étoiles. C'est une aventure absolument extraordinaire qui fait travailler ensemble la Corée, la Chine, les États-Unis, la Russie, le Japon, l'Europe, bien évidemment. Et voilà, ces grandes aventures, mais qui sont toutes situées à 2040, 2050, 2060, où c'est le sommet pour la planète Terre et les accords de Paris pour le changement climatique. On sait bien que ce n'est pas dans les 5 années, même s'il faut agir très vite, qu'on pourra impacter les évolutions. Mais ça, c'est tout, je dirais pour moi, ce qui fait la dignité de l'humanité aussi, c'est de pouvoir se projeter au-delà du quotidien, sans oublier le quotidien. Et l'action politique à court terme, elle est absolument indispensable. Et l'action de solidarité, elle est absolument indispensable. Et essayer d'éviter des conflits par les moyens diplomatiques les mieux adaptés ou certains moyens de défense préventifs, c'est bien évidemment très, très important. Mais se fixer des objectifs à long terme, c'est pas facile en politique, mais il faut pouvoir le faire. C'est une forme de politique qui est celle pour laquelle je me suis engagée. Oui. L'éducation, bien évidemment, en faisant partie, puisque c'est pas dans les, une année scolaire qu'on peut transformer et redonner une culture.
En vous écoutant, je sens en vous cet émerveillement qui vous a continuellement fait avancer. Socrate dit que la sagesse commence dans l'émerveillement. Vous êtes une, permettez-moi de le dire, vous êtes une femme sage dans cette sagesse. Pensez-vous que vous êtes accompli? Êtes-vous accompli avec tout ce que vous venez de nous dire, votre parcours, votre vie? Est-ce que vous pensez que vous êtes une femme accomplie?
Je suis une femme privilégiée qui a déjà eu la chance de vivre plusieurs vies. Je pense qu'il y en a peut-être encore après celle que je viens de quitter, puisque je suis aujourd'hui en retraite de mon activité de l'Agence spatiale européenne, et il y a plein de choses à faire. Je pense que j'ai su saisir des opportunités, j'ai su m'ouvrir, et c'est quelque chose qui reste très, très important pour moi. Ce privilège de vivre plusieurs vies, il est important si vous gardez les liens entre les différents systèmes que vous avez eu la chance de rencontrer dans votre vie. Et ça, c'est un privilège exceptionnel que de connaître le monde de la culture, le monde de la science, le monde de la politique, le monde européen, le monde de la diplomatie, et voilà, de pouvoir tramer ces fils, ces liens, et en essayant de continuer à me projeter dans cette façon d'agir, oui, je pense que je grandis. Mais vous avez dit un mot qui est important pour moi, conservons toujours cette capacité d'émerveillement. Pour ne pas sombrer dans la nostalgie, la désespérance et le repli.
Le repli.
Et c'est si un message que je peux donner, c'est que être capable de s'émerveiller, donc de se poser des questions, donc de se remettre en question, donc d'avancer, c'est important. Alors, une autre chose qui est importante, je pense, à soutenir, c'est le fait d'être sur un chemin de perfectibilité et non pas de se fixer un objectif de perfection à atteindre. Et ça, je le dis souvent aux jeunes filles que j'ai en face de moi, à l'école par exemple. N'attendez pas d'être parfaite, mais partez sur un chemin où vous progressez chaque jour.
C'est la question que j'allais... L'entretien va malheureusement se terminer. La question que j'allais vous poser, quel message aujourd'hui pouvez-vous adresser à tous les jeunes, qui plus est dans cette période de confinement, de difficultés pour les étudiants qui se sentent seuls, etc., afin d'avancer, quel message d'espérance pouvez-vous leur offrir aujourd'hui?
Peut-être de garder cette capacité de s'émerveiller des belles choses. Parce qu'il y en a, et il faut continuer à ouvrir les yeux pour les voir. Après, peut-être, cet aspect de solidarité, du agir et du vivre ensemble, n'hésitez pas à dire ce qui vous fait peur.
D'accord.
Et si moi, je peux vous aider à... On a tous peur.
Oui. Heureusement.
On a tous des doutes.
Oui. C'est ça qui fait avancer, les doutes font avancer.
C'est ça qui fait avancer, voilà, doute et peur. Et parfois on a soi-même l'audace, souvent je dis oser. On peut avoir l'audace de surmonter sa peur et d'aller vers de l'incertain.
C'est ça.
Parfois on ne peut pas le faire seul. Et c'est là où la solidarité, le collectif, la confiance qu'on peut se faire peut permettre de dépasser cette peur. Donc n'hésitez pas à signaler vos peurs, vos doutes, et puis ensemble, essayons d'avancer. Donc voilà, à un moment donné, j'étais plutôt sur ayez des rêves et osez. Je sais que c'est pas toujours facile, ça l'a été pour moi. J'ai eu un environnement qui m'a permis, je pouvais me permettre de dire pourquoi pas moi, et personne ne m'a dit c'est pas pour toi, c'est important. Aujourd'hui, il y a peut-être ces barrières infranchissables si on est seul, donc par rapport à ces jeunes ou ces moins jeunes ou à ceux qui souffrent, c'est d'être dans ce partage, cette ouverture, dans la bienveillance en fait,
oui,
que chacun puisse partager et aider l'autre.
Claudia Nuret, merci de nous avoir accordé ces quelques minutes de discussion. Merci beaucoup pour votre humanité. Abraham Heschel soulignait, je le cite, « La tâche de l'astronaute est de conquérir l'espace et de sanctifier le temps. » Claudia Nuret, vous nous avez fait tomber amoureux de l'espace que vous avez découvert et vous avez sanctifié le temps. On n'a pas vu le temps passer. Merci beaucoup.
Merci.
D'être venue et continuer à nous émerveiller parce que vous êtes une femme de l'émerveillement. Merci beaucoup.
Merci à vous.